l'ONG International Impact vous présente la mission Odyssébus.
Mais qu'est-ce que c'est ?
De quoi s'agit-il ?
C'est quoi donc ?
Pardon ?
J'ai pas compris.
Dis, tu nous expliques ?
Odyssébus, c'est une mission familiale dans un bus à Impérial. Durant 14 mois, découvrez ses trois volets : solidaire, éco-responsable et pédagogique. 19e épisode, la Roumanie. Bonjour Astrid.
Bonjour JC, bonjour à tous.
La semaine dernière, nous évoquions notre périple en Hongrie. Avec le bus, nous reprenons la route pour la Roumanie. Le pays est assez long à traverser, nous le savons. La veille au soir, nous sommes à la frontière Hongrie-Roumanie, à Debrecen. Nous allons rencontrer des voyageurs itinérants, eux aussi.
Ce sont les Lovikar Tribu, une famille française avec les deux parents, deux enfants et un chien. Ils voyagent en camion Mercedes. Ils financent en partie leurs itinéraires avec une chaîne YouTube qui génère une centaine d'euros par mois. Ils viennent de tenter de passer la frontière roumaine et se sont fait refuser de passer. Ils ne sont pas vaccinés, n'avaient pas fait de test PCR et leur camion est en surpoids. Ils vont tenter ainsi de passer la frontière à trois reprises et se faire refuser le passage trois fois, à chaque fois pour une raison différente.
On s'entend assez bien avec eux et on les retrouvera plus tard dans le parcours en Turquie. Pour la première nuit, alors que je conduis, tu recherches un lieu pour se garer et dormir.
J'utilise l'application Park4Night qui nous permet, via des filtres, de choisir des lieux adaptés à nos besoins. Proche d'un point d'eau, endroit calme, parfois avec du Wi-Fi gratuit et même des toilettes, des douches. Et où trouve-t-on de l'eau habituellement ?
Eh bien, en Europe ou dans les pays chrétiens, on les trouve essentiellement dans les cimetières. En Orient et dans les pays musulmans, proche des mosquées.
Exactement. J'ai repéré un grand espace pour garer le bus face à un cimetière roumain. Il y a un puits et donc de l'eau que l'on peut filtrer. Dans le village où nous sommes, proche de la frontière, tout a l'air très calme.
Je sors pour la première fois la pompe à eau. Je choisis la pompe électrique car je sais qu'il faut la faire fonctionner afin qu'elle ne se bloque pas. Dans le même temps, je vois un homme faire des travaux et retourner la terre du cimetière. Devant moi, il vide un grand seau de terre dans le puits, ruinant ainsi mon espoir d'avoir de l'eau limpide. Bon, c'est vrai que je galère aussi en oubliant de mettre de l'eau pour amorcer la pompe, c'est un peu compliqué.
Un homme passe à ce moment-là avec son fils, il s'arrête et te propose de charger de l'eau avec son tuyau d'eau dans son jardin au coin de la rue. Tu te le fais pas prier et après avoir vérifié l'accès avec notre monstre, tu déplaces le bus.
Toute la famille sort du bus à la vue de trois petits chatons issus de leur maison. Il nous invite, le propriétaire, dans son jardin. Son épouse nous propose de nous donner les chatons. Alors tentez, nous savons que ce serait compliqué de poursuivre le voyage avec un animal. Ça nécessiterait un passeport animal, plein de vaccins, et plus le risque et la peine de le perdre s'il s'enfuyait du bus.
Dans son jardin, il nous montre sa vigne et nous fait goûter son raisin. Il nous en donne un peu. Il nous montre ses poiriers et nous donne des poires. Il nous explique qu'il a acheté sa maison et le jardin environ 10 000 euros. Qu'il est heureux et chanceux car il gagne bien sa vie.
En sortant de chez lui, un jeune voisin de 17 ans vient nous voir avec encore plus de victuailles. Il nous offre du raisin, des fruits et même du caviar d'aubergine et d'autres plats cuisinés maison. Nous sommes impressionnés par tant de gentillesse envers des inconnus. Cela dénote totalement avec l'image d'Épinal que les Français se font des Roumains, les confondant souvent avec les Roms, ethnie minoritaire en Roumanie.
Un petit chien vient nous voir et les enfants commencent à s'attacher à lui. Il nous suit partout et va même jusqu'à nous défendre dès qu'il sent que des personnes s'approchent trop près du bus. Des piétons, des voitures ou des cyclistes. Là aussi, impossible de s'attacher à cet animal qui devra se passer de nous dans quelques jours. Les enfants apprennent des amitiés éphémères avec les animaux de compagnie. Ce n'est pas toujours simple.
Et il est temps de partir. Nous prenons tout droit, comme semble nous indiquer la population. Bon, la route n'est qu'une route de village, bon, bien goudronnée et assez large pour le bus et pour que des véhicules soient garés à droite et à gauche. J'avance, saluant les grands-mères et les habitants sur le bord de la route qui nous saluent en retour. Puis, la route du village s'arrête net. Plus rien. Plus de route. Même pas de piste. Rien. L'asphalte s'arrête net alors que les maisons sont encore de chaque côté de la route. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire marche arrière. Pourtant, c'était pas indiqué, impasse. Je peux vous dire qu'avec un engin de 13,50 m de long, c'est pas de la rigolade. Astrid et les garçons sont mis à contribution pour me guider, afin que j'évite les voitures garées, les fils électriques souvent trop bas et les autres nids de poules dans la route. Ça y est, on s'en est enfin sorti et nous voilà de nouveau sur la route pour Alba Iubia, jolie cité roumaine fortifiée. Sur la route, notre GPS spécial camion, Cégic Truck, c'est notre meilleur allié. Il nous permet de nous tracer un trajet compatible avec les dimensions et la hauteur du véhicule. Nous nous engageons donc dans des rues pas trop étroites la plupart du temps et nous évitons les ponts trop bas.
Cette fois-ci, l'arrivée à Alba Iubia semble bien difficile. Pour se rapprocher de la citadelle et se garer sur un grand parking, nous devons prendre une rue de traverse. Tu t'engages et fais bien attention aux véhicules garés à côté de nous.
Et c'est sans compter la hauteur des fils électriques et surtout téléphoniques. Le bus fait 4,10 m de haut et les fils sont mis de manière très anarchique au-dessus de la route. Le bus à double étage possède le poste de conduite en bas, donc moi je suis très près du sol, bien éloigné du haut du véhicule. Alors heureusement j'ai une caméra en haut qui me permet de voir si je vais passer un pont, mais malheureusement on ne voit pas bien les fils, et notamment les petits fils. Et ben ça y est, j'en accroche un. Ayant peur que ce soit un fil électrique, je décide en un fragment de seconde de continuer jusqu'à casser le fil s'il le faut, pour que les enfants ne soient pas électrisés dans le bus. Crac ! Et boum ! Le fil a lâché. Il semble être tombé, mais il a cassé quelque chose, je sais pas quoi. Je m'arrête. Ouf, ce n'était qu'un fil téléphonique.
Sauf que l'anneau de fixation du fil est venu s'encastrer dans le pare-brise d'un véhicule garé là. Le pare-brise a explosé. Il se trouve que le propriétaire était dans son véhicule garé. Il sort en pleurs. Il n'est pas blessé, mais il semble désespéré. Il venait de finir d'acheter sa voiture. Une femme roumaine nous vient en aide et traduit en anglais. Elle nous indique que la police a été appelée et qu'elle allait régler tout cela. C'est ce qui arrive. La police vient et constate le problème. Elle te fait déplacer le véhicule avec nous à l'intérieur pour qu'il soit en sécurité sur un parking. Puis, elle t'emmène au poste.
Alors, je suis assez serein. Pour moi, je roulais doucement et c'est vraiment l'installateur de téléphone qui a mis les câbles beaucoup trop bas et de manière anarchique. Enfin, tout de même, me voici au poste avec la police roumaine qui ne rigole pas vraiment et ne parle pas un mot de français, d'ailleurs, ni d'anglais. La communication va pas être facile. Le gars qui a eu son pare-brise cassé est amené aussi. Ça y est, il ne pleure plus et la police le rassure, lui promettant, de ce que je comprends, qu'il sera remboursé. Après avoir pris mes coordonnées et celles de notre assurance, ils me remettent un rapport. Je ne dois rien payer, mais j'ai quand même un avertissement pour non-maîtrise du véhicule.
Par la suite, on verra qu'ils demanderont à notre assurance de payer les réparations du pauvre monsieur. On sera informé par mail 3 mois plus tard.
Pendant ce temps-là, vous découvrez la citadelle et je vous rejoins. Je fais aussi un tour pour me détendre. Décidément, le bus Bulis nous en fait voir de toutes les couleurs.
Nous reprenons donc la route en faisant bien attention à la hauteur des fils électriques et téléphoniques. Il n'y a pas de doute, ils sont particulièrement bas en Roumanie. Notre objectif est d'atteindre les gorges de Turda, qui seraient particulièrement jolies. Elles se trouvent en Transylvanie, où nous allons passer quelques jours.
On s'engage sur la route, relativement étroite, mais un fil électrique un peu plus loin est beaucoup trop bas. Il est tard, nous décidons de dormir ici, sur le bas-côté de la route. Demain, nous aurons une meilleure visibilité. Le lendemain matin, les villageois nous indiquent que nous pouvons passer par une autre route. Alors à un moment donné, il n'y a plus d'asphalte, paraît-il, mais d'après eux, les bus passent.
Nous prenons donc cette route et commençons l'ascension. Au bout de 2 km, effectivement, plus d'asphalte. A priori, le relief n'est pas trop important. Je sors avec Célian et j'essaie de guider le bus. Ça passe, là non, ça passe pas.
Après avoir connu les difficultés liées à la hauteur du bus, nous voici confrontés à la garde au sol, qui est très basse. Le constructeur, pour éviter des problèmes de hauteur, a décidé de faire un bus particulièrement bas. Tu m'aides en regardant le devant, Célian regarde le milieu du bus et puis Malo regarde l'arrière. Faire marche arrière n'est pas simple et c'est même le plus difficile. Parfois même une roue arrière est en lévitation. Nous mettons 1h30 à sortir de cette situation. Mais la route ne nous permet pas de faire demi-tour. Alors je dois faire les 2 km en marche arrière et en descente.
Un vieux roumain des campagnes essaye de nous guider tant bien que mal. Mais il connaît moins le bus que toi et moi. Il risque de nous envoyer dans des zones difficiles. Alors tu n'écoutes que moi et tu arrives enfin à revenir à notre point de départ. Finalement, nous laissons le bus ici et nous partons à pied.
Ce vieux monsieur va chercher des prunes. Il arrache carrément des branches entières de pruniers et les pose sur notre pare-brise. La visite des gorges sera empêchée par un brouillard fort et même une averse. Nous ne verrons finalement pas grand-chose. Sur le chemin du retour, nous nous séparons. Je pars avec Opal et Maya. Célian reste seul, rentre seul d'ailleurs. Et toi, tu rentres avec Malo et Olympe. Avec les filles, nous choisissons un chemin qui est particulièrement boueux. La boue se colle à nos chaussures qui se transforment en chaussures plombées d'astronautes. Peur dans un premier temps, rire dans un deuxième.
Notre périple continue. Nous allons vers les mines de sel de Tourda. Sur la route, nous nous arrêtons près d'un centre équestre. Les enfants découvrent le travail d'un maréchal ferrant qui travaille à l'ancienne. C'est assez passionnant de voir le cheval sans fer, de voir le travail du maréchal ferrant et de voir le cheval repartir avec ses fers aux pattes.
Ouais, la mine de sel est impressionnante. Pour moi, c'est la première. Vous en aviez visité une en Pologne. Un ascenseur nous descend de quelques dizaines de mètres. Nous arrivons dans une énorme salle entourée de murs de sel. Quand je dis énorme, c'est absolument gigantesque. Il y a même une grande roue dans la salle. Il y a un lac souterrain. Nous avons même la possibilité de faire du bateau dans ce grand espace. Bien entendu, l'extraction de sel ne se fait plus depuis des années. Ici, les jeunes Roumains viennent se détendre en jouant au ballon ou au billard.
Le temps est meilleur et nous décidons de repartir voir les gorges de Tourda. Il y a carrément un grand soleil et la visite commence par une descente en tyrolienne. Célian, courageux, décide de la faire sans parachute. On nous prévient en avance, sa vitesse pourra dépasser les 80 km/h. Opal et moi descendons à pied pour filmer les arrivées des garçons et de Maya. Après la descente, il y a la montée. Cette fois-ci, on la fait à pied. Pont suspendu, gorge profonde, c'est magnifique et grandiose. Cela restera un très bon souvenir. Nous partons pour Sibiu. Je décide d'emmener les enfants qui veulent au zoo situé en face de l'arrêt de bus où nous nous sommes installés, pendant que JC travaille. Les animaux semblent s'ennuyer dans leur enclos, que l'on trouve plutôt étroit pour plusieurs d'entre eux. Certaines espèces, pourtant, ne pourraient survivre dans la nature, comme le tigre blanc, et ce lieu est un moindre mal. Mais nous repartons en regrettant d'y être venus et d'avoir participé, peut-être, à l'exploitation de ces animaux qui auraient été plus heureux là d'où ils viennent.
Le lendemain, c'est le musée extérieur de Sibiu qui nous accueille. Il nous fait remonter 100 ans en arrière pour découvrir les habitats et l'artisanat de l'époque par la reconstitution de maisons typiques de Roumanie sur 96 hectares. On peut parfois rentrer dans certaines de ces maisons, elles sont regroupées par métier. Les potiers, les viticulteurs, les agriculteurs. Nous apprécions ce musée en plein air, paraît-il assez similaire à un autre musée de Bucarest. Puis nous partons à vélo visiter la charmante ville de Sibiu. Opal a un coup de cœur pour ces maisons qui ont des yeux, paraît-il, au niveau du toit. À l'époque communiste, la population se pensait surveillée par ces regards, mais en réalité, cela sert simplement à aérer les greniers. Nous passons sous le pont des mensonges, dire quelques mensonges pour vérifier si le pont s'écroule sur nous, comme la légende le dit. Mais bon, rien ne se passe.
Direction Zarnesti à 2 heures de route. Nous en mettrons 4. Chaque traversée de ville et village nous oblige à vérifier si les fils passent, trop peur d'en embarquer encore un. Nous croisons plein de nids de cigognes, mais aussi des charrettes, des troupeaux de moutons et de chèvres. Nous longeons la chaîne des Carpates, magnifique montagne qui côtoie les nuages et forme un croissant au cœur de la Roumanie. Puis, en route vers le sanctuaire d'ours le plus grand du monde à Zarnesti. L'ONG International Impact pourrait venir en aide à cette association qui ne reçoit aucune aide de l'État.
Le sanctuaire de Zarnesti accueille 110 ours, mais aussi des chiens, des loups, des biches. L'association soigne et sauve des centaines d'animaux qu'on leur signale par téléphone. Nous avons été très touchés par les histoires de chacun, comme ces deux ours qui ont survécu à la fermeture d'un zoo, qui, faute de moyens, a laissé mourir tous ces animaux. Ou les ours qui sont restés dans de petites cages des années durant, devant des restaurants pour distraire les clients. 60% des animaux d'Europe vivent en Roumanie. Les Roumains sont peu sensibilisés au bien-être des animaux. Il y a encore peu, les gens pouvaient en acheter un comme animal domestique. Maya a été très marquée par leurs histoires et elle a serré très fort toute la journée son doudou qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Le contact est pris et un partenariat sera peut-être possible.
C'est la Transylvanie qui va nous accueillir pour les jours suivants. Cette région est particulièrement connue pour abriter les monstres, Dracula et autres personnages irréels effrayants.
Nous commençons par le château de Bran. Le château de Bran, au sud de la Transylvanie, est communément surnommé le château de Dracula. Mais Dracula n'y a jamais vécu, et pour cause. C'est un personnage imaginé par l'écrivain britannique Bram Stoker en 1897. Le château de Bran, perché sur un pic, ressemble tant à l'imaginaire que l'on se fait du château de Dracula que le petit-fils de l'écrivain et d'autres investisseurs ont décidé de faire de ce lieu un site touristique autour du thème de ce conte épouvantable.
Dommage, car le château à lui tout seul est assez charmant pour attirer des visiteurs sans qu'il ne soit besoin d'inventer cette histoire. Il a été restitué à la famille des Habsbourg après avoir été confisqué quelques années par le gouvernement roumain. Les enfants s'amusent dans le château et le parc. Il est vrai que le climat est assez glacial et lugubre. Il y a souvent du brouillard dans ces contrées montagneuses.
Après la visite du château de Bran, il est temps de traverser les Carpates, justement. 3 degrés au réveil. Bullis n'est pas fait pour ces températures et nous ne chargeons presque plus d'électricité en journée à cause du froid, des nuages et de la pluie. Ce qui a pour conséquence de nous priver d'eau chaude et des plaques de cuisson. On supporte le froid avec plusieurs couches de pull et on a sorti les manteaux. Mais on sait que ce qui nous attend ne va pas être simple. Une chaîne de montagnes avec des fortes montées et des lacets difficiles à passer.
Alors ça ne manque pas. En pleine ascension et alors que la nuit va tomber, le bus tombe en panne. Dur, car la montée est raide et en lacets. Impossible de s'arrêter là. Pourtant, le bus ne redémarre pas. Tu essayes une fois, deux fois, trois fois, sans succès. Nous décidons de le laisser reposer une demi-heure. Tu redémarres et le bus fait les 300 mètres nécessaires pour l'amener sur un plateau au bord de la route. Une chance incroyable qu'il y ait ici un arrêt. Pas le choix, nous allons passer la nuit ici. À ce moment-là, nous n'avons toujours pas de chauffage efficace dans le bus. Tu essayes de faire fonctionner le groupe électrogène. Cependant, on n'y arrive pas. Nous savons que la montagne est remplie d'ours et de renards. Alors que la nuit tombe, un renard s'approche à 2 mètres de nous. Il vient se nourrir dans les poubelles du bord de la route. Nous en profitons pour le voir de près et espérons ne pas voir les ours débarquer. Ce soir-là, on verrouille bien la porte et on se couche. Au réveil, il fait de nouveau 3 degrés dans le bus.
Ce matin, le bus a l'air de vouloir terminer la côte. Il ne reste plus qu'un kilomètre. Nous les faisons et nous nous apprêtons à la grande descente en lacets. Ce sera le moment le plus difficile pour le bus et pour nous. Nous ne savons pas s'il est possible de faire ces lacets avec un bus aussi grand. La chance est de notre côté et nous faisons la descente en douceur et sans trop de difficultés. Cependant, la route remonte un peu. Une fois, ça passe. Deux fois, ça casse. Nous retombons en panne à 200 mètres d'une station-service en surplomb. Alors on décide de prendre notre mal en patience. La visibilité est bonne, on est en journée, les véhicules peuvent nous dépasser. Alors on se prépare tranquillement le déjeuner, là, dans la montagne, dans la route de montagne, en pleine montée et en bloquant une voie. Le temps de la cuisson, je sors du bus avec les enfants pour ramasser les nombreux déchets jetés par les conducteurs. On remplit sans problème un gros sac poubelle. Après le déjeuner, le bus repart et nous allons le garer sur un petit parking en haut de la montagne. Maintenant, ces descentes continuent en direction de Bucarest.
Avant d'arriver en capitale, nous nous permettons un crochet vers une région peu souvent visitée mais pleine d'intérêt, la région de Buzo. Tu négocies un chauffeur et minivan pour la journée. Nous partons à la découverte des volcans de boue. Il y en a environ 700 dans le monde. C'est du gaz et de l'eau salée qui remontent à la surface et donnent au paysage un aspect lunaire, idéal pour le tournage de clips vidéo ou de films de science-fiction. Les volcans de Buzo sont encore peu visités. La ville a fait une demande pour inscrire le site au patrimoine de l'UNESCO. En voulant traverser le volcan, Opal s'enfonce dans la boue au point d'en perdre ses chaussures. Sur le moment, elle est paniquée et me transmet son angoisse. Nous savons qu'en tombant dans le volcan de boue, on peut disparaître plusieurs kilomètres sous terre. Nous crions et tapons. Grand moment de stress. Célian vient, mais n'a pas les réflexes ni les propos rassurants. Petite tension familiale. On mettra du temps à se calmer. Heureusement, on en rit aujourd'hui.
Un peu plus loin, dans la montagne environnante, nous découvrons les Troventis. Ce sont des concrétions de formes arrondies qui peuvent parfois s'être soudées ensemble, donnant des formes surprenantes, de grands disques d'un à deux mètres de diamètre. Pour les villageois, ce sont des pierres mi-végétales, mi-minérales, vivantes, et qui continuent de grossir et peuvent même se déplacer. Les croyances populaires sont nombreuses autour de ces pierres étonnantes.
Gros coup de mou cette semaine. Il pleut en continu depuis 7 jours. Le froid et l'humidité pénètrent partout dans le bus. Le véhicule refait des siennes dans les montées. Ajoutez à cela de fortes disputes au sein de la famille, nous amènent à nous poser pour faire le point sur nos objectifs, ce qui est essentiel pour nous, comment on veut continuer. Dans tout grand voyage, comme dans les missions humanitaires, la courbe du moral fléchit toujours à un moment donné, généralement vers les 6 mois. JC et moi connaissons ce phénomène pour l'avoir vécu et observé chez de nombreux volontaires internationaux en mission. Pour autant, on n'avait pas vu venir cette baisse de morale prématurée. Nous subissons, et moi particulièrement, le contre-coup de toutes les pannes et garages que nous avons faits. Et c'est là que les amis, les voyageurs, la famille sont d'un grand soutien lors de ces coups durs pour remonter le moral, encourager et aider à nous recentrer sur l'essentiel. Après une journée de recherche de garage à Bucarest, nous déposons lundi le bus chez un nouveau Mercedes. L'assurance prend en charge quelques nuits à l'hôtel, ce qui nous permettra de nous réchauffer, de nous laver et de nous reposer. Une famille de voyageurs, Christophe et Marilyn, enchaînent les kilomètres depuis la Serbie pour nous rejoindre. Les rencontres entre voyageurs sont infiniment précieuses pour nous. Nous réalisons que la vie en vase clos nous va plutôt mal. Et nous n'avions rencontré aucun Français depuis la Hongrie. Le soleil est revenu, et les sourires aussi.
Sur Bucarest, j'avais plusieurs contacts d'ONG à rencontrer. La Fondation Motivation a recueilli de nombreux orphelins handicapés pour améliorer leur vie quotidienne. Conception de fauteuils roulants, accueil en maison, formation auprès de nouveaux handicapés à l'utilisation du fauteuil, accompagnement socio-professionnel, mais aussi un programme sportif. L'action est impressionnante et la motivation de ses responsables est intacte depuis 25 ans. Puis nous repartons en famille, cette fois-ci en maraude, avec Yonut, responsable de la fondation Parada, qui œuvre auprès des enfants des rues de Bucarest depuis 25 ans. Et Alina, qui a rencontré la fondation après avoir fui l'orphelinat, où elle subissait de mauvais traitements. Services d'intervention de rue, visites aux familles, centre d'accueil de jour, réinsertion par le biais du cirque. Le fondateur était clown et il a noué le dialogue avec les premiers jeunes par le rire. Aide psychosociale, aide aux devoirs, vraiment, la crise du Covid a mis à mal l'action de l'association qui traverse des difficultés économiques importantes en ce moment. Aucune aide publique, la fondation vit de dons et les Roumains, depuis la période communiste où le régime rendait obligatoire le bénévolat tous les dimanches, associent encore aujourd'hui tout ce qui est social à la dictature. Le pays n'a pas encore cicatrisé de cette période pas si lointaine finalement. Yonut nous raconte qu'avant 1989, le gouvernement encourageait les femmes à avoir des enfants et à les abandonner à l'assistance publique afin qu'ils soient élevés dans les valeurs communistes. Mais les conditions de vie dans les orphelinats étaient dramatiques et de nombreux enfants ont fui, préférant la rue. Après la Révolution, le pays comptait 100 000 enfants dans les orphelinats. La situation des enfants des rues s'est améliorée aujourd'hui. Ils sont maintenant parents, mais continuent de vivre dans une extrême pauvreté. Nous envisageons des moyens de les aider, peut-être avec des services civiques.
Nous retrouvons Christophe et Marilyn et leurs deux filles en voyage en Europe qui nous ont rejoints à Bucarest. Les enfants accrochent en 2 secondes. Le voyage a ce site bénéfique. Il supprime les barrières de la timidité et les freins que nous avons parfois dans la vie sédentaire à la rencontre. Nous visitons ensemble le palais du Parlement de Bucarest que Ceausescu a fait construire, 350 000 m². Il est le 2e plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Sa construction a commencé en 1984, 20 000 ouvriers travaillaient jour et nuit, 40 000 personnes ont été expulsées. Son coût est allé jusqu'à 40% du PIB du pays annuel pendant sa construction. Tout est en marbre, les plafonds sont magnifiques, les salles gigantesques à l'image de la mégalomanie de ce dictateur. Il n'a pas eu le temps de le voir fini ni de l'habiter. C'est aujourd'hui le palais du Parlement. 3000 personnes y travaillent chaque jour. Pendant que tu fais des essais avec le bus suite aux travaux effectués par le garage, nous profitons du retour du soleil.
Cette fois, pour être bien sûr que les pannes sont bien réglées, je me suis levé tôt pour refaire la traversée des Carpates en sens inverse. Les montagnes sont déjà loin derrière nous, mais il n'y a pas mieux pour vérifier que les montagnes enlacées sont atteignables. Nous avions mis 3 jours à les traverser en s'arrêtant pour reposer le bus la nuit. Cette fois, il aura roulé 8 heures d'affilée, en montée, en descente, en lacet, sans aucun signe de fatigue. J'arrive le soir triomphant, et toi, soulagé. Le garage d'Allemagne avait bien trouvé d'où venait la fuite d'air, mais ils n'avaient pas bien choisi la façon de la réparer. Ils avaient décidé de contourner le pré-filtre en cause. Sauf qu'avec le temps, le pré-filtre ne faisant plus son travail, les saletés se sont accumulées dans le filtre situé derrière, ce qui empêchait l'essence de bien arriver dans les moments où le bus devait faire des efforts poussés. Le garage roumain a mis un nouveau pré-filtre, plus puissant, facile à nettoyer. Cette fois, le pré-filtre fait son travail et le filtre n'est plus bouché par les saletés. À nous les montagnes de Bulgarie et de Turquie.
Nouvelle rencontre d'ONG. Nous sommes accueillis par deux Françaises en mission chez Valentina, association qui vient en aide aux enfants de familles pauvres à Bucarest. L'association propose du soutien scolaire aux enfants qui, en Roumanie, n'ont école qu'une demi-journée par jour. Les enfants peuvent également participer à un camp de vacances l'été. Les familles reçoivent également une aide matérielle pour les livres scolaires, la cantine, et un programme sanitaire permet d'enseigner l'hygiène aux enfants. La structure France se charge de récolter des fonds par divers événements pour soutenir l'action de la Fondation roumaine.
Samedi, il est temps de reprendre la route. Après un saut, environ 8 km de vélo quand même sur le bord d'une autoroute, dans un centre commercial pour remplacer un certain nombre de chaussures percées, nous prenons la route en direction de la Bulgarie. Passage de frontière avec vérification des passeports et rien pour la Covid. Nous traversons le pays en deux jours sans rien visiter. On trace à la poursuite du soleil.
On y est. Après deux heures de contrôle, quatre fouilles du bus, six contrôles des passeports avec reconnaissance faciale, nous quittons l'Europe et passons en Turquie. Nous sommes plongés quelques jours plus tard dans l'histoire de l'Empire byzantin, puis de l'Empire ottoman, qui est au programme de 5e. Ça tombe bien. Nous allons pouvoir découvrir en vrai toutes ces villes incroyables. C'est fini pour cette semaine.
Et on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
Cette émission vous a plu ?
Retrouvez nos aventures sur le site www.odyssebus.com.
Mais aussi sur Facebook.
Sur Instagram.
Sur TikTok.
Ou sur le YouTube d'International Impact, playlist Odyssebus.